Les controverses du village, épisode numéro 11. Je suis avec Émilie Flamand.
Bonjour.
Dominique Montet.
Bonjour.
Et moi, c'est Sullivan Le Postec. Et puis, comme d'habitude, en gros, un numéro sur deux, on va vous parler de Doctor Who. Alors, le finalé de la saison 2011 de Doctor Who, The Wedding of Riversong, vient juste d'être diffusé sur BBC. C'est l'occasion de faire un bilan de cette saison 2011 de Doctor Who. On va peut-être commencer comme ça. Votre appréciation générale sur cette saison, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez en dire?
Moi d'abord,
allez.
Plutôt bonne. Plutôt bonne globalement. Après, il y a des choses qui... Je sais pas, qui commencent à me déranger avec Stephen Moffat, mais je commence à mieux cerner le personnage. J'en parlerai un petit peu plus tard. Teasing.
Et toi, Émilie?
Moi, globalement, pareil. Je reste sur l'appréciation que j'avais l'année dernière, sur le côté un peu féerique que peut avoir Moffat dans son approche, qui me plaît beaucoup. Je reste sur ça, même si oui, en effet, il y a des épisodes qui m'ont moins plu ou des petits éléments scénaristiques où je me dis t'aurais pu te fouler un peu plus ou t'aurais pu y répondre au moins, mais bon.
Et moi, comme du coup j'ai eu l'occasion de l'écrire, je suis vraiment très satisfait de cette saison qui a des défauts, mais toutes les saisons du monde ont des défauts quoi. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes vraiment brillants cette année. Et je trouve que par rapport à la saison 5 où je trouve qu'il y avait beaucoup de qualité mais où il y avait un truc qui prenait pas, où la formule me semblait, où je trouve qu'il prenait la série en main de façon trop timide et c'était trop un hybride entre Stephen Moffat et les saisons à la façon Russell T. Davis, là pour le coup j'ai l'impression qu'il a vraiment pris la bête en main et qu'il s'éclate, et moi ça me fait plaisir à voir. Et puis je suis plutôt client du fait qu'il y ait un arc un peu dense et etc. Donc voilà, moi l'alternance de mythologie et de stand-alone, ça m'a toujours bien convenu. Donc voilà, je suis assez content de ça.
Pour reprendre juste sur la façon alternance, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le feuilletonnant. Donc en effet, les épisodes mythologiques m'ont beaucoup plu. Par contre, justement, c'est sur certains loner, en fait, certains stand-alone, où j'ai trouvé qu'ils étaient du coup très largement en dessous.
Ben, j'aurais vraiment pu dire ça. En fait, la deuxième partie de la saison a permis de faire un peu basculer cette perception-là de mon point de vue. Parce que dans la deuxième partie de la saison, les deux meilleurs épisodes, c'est des loners. C'est The Girl Who Waited et The Girl Complex, que je trouve vraiment, vraiment très bon et assez intéressant. Et dans la première partie de la saison, il y avait quand même... The Doctor's Wife, l'épisode de Neil Gaiman.
Donc,
c'est ça. Donc ça fait quand même trois loners que j'ai trouvé vraiment intéressants et qui, dont deux qui en plus faisaient ce qui c'est vrai manquait. Il peut y avoir un côté vraiment schizophrénique avec des loners vraiment loners et des mythologies vraiment mythologies. Et là on retrouvait ce qui était la qualité des saisons de Russell T. Davis, c'est que souvent les loners participaient à la thématique de la saison, en fait. Il renforçait il permettait de mieux interpréter la saison, il renforçait la signification thématique de ses arcs et de ses season finales. Quand il y a plein d'exemples comme ça, pour moi le plus flagrant c'est le loner avec Sarah Jane Smith dans la saison 2, où on te fait comprendre c'est quoi d'avoir été abandonné par le docteur, tout ça pour t'amener au point où te faire comprendre que le but de cette saison c'est que Rose se trouve abandonnée du docteur. Et le fait d'avoir vécu ça avec Sarah Jane Smith au début de la saison, ça te permet d'encore mieux imaginer à l'instant où ils sont séparés la douleur que c'est, et du coup tu verses d'autant plus d'hectolitres de larmes en regardant le final. Et ça, il le fait vraiment très très bien. Aussi voilà, avec sa méthode qui était propre, c'est-à-dire que Russell T. Davis c'était le dictateur de Doctor Who quoi. Il filait les pics des épisodes à tout le monde, on l'a bien vu dans l'interview du Comic-Con. On demande à Stephen Moffat pourquoi vous avez écrit sur Madame de Pompadour. Ben, parce que Russell T. Davis est arrivé, il m'a écrit toi tu me fais un épisode sur Madame de Pompadour. Je veux pas, rien à foutre. Et c'était comme ça quoi. Alors qu'effectivement, Stephen Moffat n'a pas cette approche. Il y a beaucoup plus de l'honneur qui donc, du coup, sont apportés par, par les scénaristes indépendants. Et voilà, et ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est plus dur d'arriver à cette continuité thématique. Du coup, ils sont aussi plus disparates, parce que finalement, toute la série d'avant, c'était du Russell T. Davis du premier dernier épisode. Là, il y a plus de voix d'auteurs différentes qui s'expriment. Mais l'avantage, c'est qu'aussi, quand il y a une bonne voix d'un auteur extérieur qui s'exprime, bah, ça donne The Doctor's Wife de Neil Gaiman, ça donne Vincent and the Doctor l'année dernière. Voilà, ce genre de choses qui vraiment un honneur qui tranche en bien avec tout le reste, qui du coup est vraiment agréable.
Moi, je voudrais pas me prendre pour Steven Moffat, mais je pense qu'il est passé à côté d'un truc dans cette saison-là. Quand on voit justement les épisodes mineurs, même si Curse of the Black Spot, pour moi, c'est un cas à part, parce que là, clairement, c'est juste un machin...
C'est un carnage.
Bah, c'est un carnage, mais en même temps, je comprends la logique qui fait on va faire un épisode sur les pirates. Quoi. Enfin, là, je critique pas du tout. Voilà, l'exécution, c'est autre
voilà,
chose.
C'est ça.
Mais le principe, je comprends. Dans la salle d'écriture, je comprends pourquoi ils se sont dit on va faire ça. Maintenant, ils sont peut-être passés à côté d'un truc, parce que quand on voit l'épisode, par exemple, le double All Mode People et Rebel Flesh, où là, je trouve vraiment que c'est vraiment catastrophique en tout point. Parce que même l'idée est sympathique, mais de se dire hey, on va faire un double, les gars, ça n'a aucun sens. Derrière, moi, là où je suis déçu, sur la deuxième partie de saison, le coup gonflé, ça aurait été de faire du pur feuilletonnant de la fin de Good Man Goes to War jusqu'à The Wedding of River Song. Parce que quand on voit le nombre d'éléments qui sont balancés dans Let's Kill Hitler et dans The Wedding of River Song, il y a de quoi mourir pour chacun de trois épisodes, donc les six qui restaient. On serait passé à côté de The Girl Who Waited, de The World Complex qui est très très bien, de Closing Time qui est sympathique, mais ça aurait été utilisé à un autre moment, je pense, parce que la thématique
time.
De Closing Time est intéressante.
Bah, de toute façon, globalement, on aurait pu virer la plupart des l'honneur de la première moitié et développer la mythologie. Ça aurait moins équilibré la saison sur au milieu de la saison, on a cette révélation, certes, mais globalement, c'est ça, quoi. C'est que la première saison a des épisodes qui sont un peu plus bas et que la deuxième, on a qui sont trop denses.
Tous les épisodes de Steven Moffat. Ce qui vient à ma théorie,
ah, oula.
C'est que quand Steven Moffat disait en s'amusant que la première fois qu'il a postulé pour devenir... scénariste de Doctor Who, c'était quand il avait 7 ans. Pour moi, Steven Moffat, il a toujours 7 ans. Ce qui fait que quand il écrit une histoire, c'est foutraque. Il y a plein de choses qui se passent. Quand t'entends un gamin raconter une histoire, c'est « et puis il y a, et puis après c'est, et puis après c'est ». Et c'est ça les histoires de Steven Moffat. Sauf qu'évidemment, il écrit pas comme un enfant de 7 ans, parce que l'expérience aidant, le mec il a 50 balais, il a un sens de la structure, de la narration. Ce qui fait que ces épisodes, si t'es pas hyper attentif, tu te dis « c'est quoi ce bordel ?» Si tu l'es, tu te dis « non, non, ça se tient, c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça se tient. » Mais du coup, tu te dis, des fois t'as envie de lui dire « ralentis, prends ton temps. The Most People Rebel Flesh, fais pas un double épisode, fais un double épisode sur The Wedding of River Song. » Je pense qu'il y a un problème d'équilibre. Ça va être très bizarre à entendre. D'équilibrage, de densité.
Non, mais de toute façon, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ici, ils ont voulu reclaquer un double épisode, comme il y a toujours eu dans les saisons, un double épisode au milieu.
Qui sont toujours des immenses succès, d'ailleurs.
Après, t'as vraiment l'impression qu'on a calqué le modèle, quoi. Si tu veux. On a, au moins, il y a un problème sur la structure globale, quand même, parce que. Il a très bien fait son début de saison, c'est son double épisode de départ. Il a dit, en gros, il a mis au milieu du truc la news sur... enfin, la news, le côté River Song et la fille d'Emily Drury et qu'elle disparaît. Donc forcément, on enchaîne là-dessus pour résoudre un peu l'histoire quand même après. Donc ça te bloque aussi ces deux épisodes-là. Et tu termine ton histoire forcément par expliquer la mort du docteur. Donc à partir du moment où tu poses ça, après tu combles les trous. Tu combles les trous là-dedans, tu dois mettre un double épisode parce qu'il y a toujours eu un double épisode de ce genre-là qui traîne dans la saison. Et après tu mets tes l'honneur. Or tous ces l'honneur qui sont sur la réflexion sur le docteur et qu'il commence à réfléchir, etc. C'est une fois qu'il a appris qu'il allait mourir et ainsi de suite. Donc c'est tout vers la fin et tu combles comme tu peux. Et c'est, pour moi c'est du comblage. Et on a mis la structure de base et après il y a d'autres épisodes. Je dis pas que tout est mauvais dedans. Au contraire, il y a de très bons épisodes. épisodes maintenant.
Après, il y a des positionnements d'épisodes qui font bizarre.
Voilà.
Parce que juste derrière avoir appris la mort
du docteur, avoir le cœur sur Black Pop.
T'as 3-4 épisodes où juste il se regarde en se mentionnant et on lui dit pas parce qu'il va mourir quand même. Et du coup, ça donne un rythme bizarre. Ce qui donne un rythme encore plus étrange, c'est après Goodman doit se voir, donc disparition de l'enfant de Rory et d'Amy. Bon, bah, alors il y a Ned Skinwalker, et après, bon, bah, on va voir un enfant dans un HLM, bon, bah, on va voir. On va aller dans une pièce. On se retrouve dans une pièce bizarre parce qu'on voulait voir un autre truc. T'as un côté nonchalant dans leur manière d'aborder les aventures qui n'est pas la logique, même si elle pouvait se dire. Bon, de toute façon, j'ai pas vu ma fille pendant des années, mais je sais qu'elle va au final bien tourner. La logique est un peu étrange. T'as envie de voir ton enfant grandir. Donc, il aurait peut-être fallu autre chose qui les bloque, plutôt que bon, bah, pff, allez, après tout, elle tourne bien, on va laisser faire.
Bah, ouais. De la part d'Amy, il y a deux réactions, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a quand même Amy et Rory. Amy, elle a une dévotion au docteur qui est telle que tu peux accepter, enfin, que tu te dis qu'elle peut accepter certaines choses, même si l'instinct maternel, derrière, normalement, il devrait prendre le dessus. Mais au niveau
surtout
de Rory.
Surtout qu'il prend le dessus à plusieurs reprises.
Et puis Rory, dans l'histoire, encore une fois, t'es le papa, dans le côté, à part le donneur de sperme, t'as pas fait grand chose dans l'histoire. Hein, parce qu'on ne demande pas ton avis, on ne demande rien par rapport à ça, et tu suis, quoi.
Mais c'est aussi la complexité de cette histoire, et c'est là que je trouve qu'il y a quand même une distance à prendre par rapport à une identification trop littérale. C'est-à-dire que ni Rory ni Amy n'ont jamais su qu'elle était enceinte. Ouais. Ils ont appris au moment où elle avait sa première contraction qu'elle était enceinte. C'est quand même une forme de paternité ou de maternité un peu spécial, de jamais savoir qu'on était enceinte. Et Rory a vu son enfant un total de 2 minutes 34 avant qu'il disparaisse. Il y a quand même un côté, tout ça est vachement surréaliste. Enfin, leur expérience dès le départ n'avait rien de normal, quoi. Et après, il y a une décision stratégique qui est compréhensible, qui est de zapper 3 mois pour nous permettre d'évacuer la phase de douleur initiale, quoi. Fait qu'on reprend Amy et Rory, ils ont eu quand même 3 mois pour.
C'est un trauma, parce que disparition d'un enfant, découverte que l'enfant c'est quelqu'un que tu côtoies depuis longtemps mais plus vieux que toi, enfin, c'est une suite d'événements qui plongent forcément dans un profond désarroi.
Après je pense vraiment c'est là où il y a à mon avis une connerie dans l'histoire, c'est qu'il manque vraiment une scène. Il fallait foutre une scène entre juste Amy et Rory à la fin de Let's Kill Hitler, ou simplement ils en parlent. Il fallait le montrer, en parler, oui. Il y a tout un tas de choses qu'on peut comprendre, le fait que par exemple, mais qui sont pas dites, ce que je trouve génial à la fois, parce que je suis touché que Steven Moffat nous fasse autant confiance, mais quand même, c'est bien de nous faire confiance sur les éléments de scénario, mais par contre, les émotions, quelquefois, il faudrait pouvoir un peu les dire quand même.
Il manque la scène d'acceptation, en fait.
Et puis cette scène, dans cette scène, il devrait aussi se dire que ces choses qu'on comprend dans Good Man Goes to War, le fait que Riversong, elle refuse de participer à la bataille de Demon's Run, parce qu'elle veut pas être sauvée. Elle veut pas que ses parents changent son passé. C'était très dur, mais si on change son passé, ça change toute son histoire avec le docteur, et elle veut à tout prix, nous on sait qu'elle est prête à mourir pour pas effacer son histoire avec le docteur. Donc c'est elle qui convainc presque ses parents de, je sais c'est dur, mais pour moi, accepter ça. Mais simplement, tout est dans le non-dit, en fait. C'est beau, c'était très beau dans Good Man Goes to War. C'est vraiment un truc qui me plaît, et je trouve que c'est la scène finale, moi, où Riversong apparaît, elle me bouleverse aux larmes à chaque fois. C'est terrible. Mais dans Let's Kill Hitler, à la fin, il fallait cette putain de scène, il fallait 3 minutes, Rami et Rory ensemble, qui se parlent, qui se disent, bon, alors on l'accepte,
D'autant plus qu'ils viennent de se prendre une fois de plus, parce que je suis d'accord qu'il y a eu les 3 mois pour digérer l'épisode où ils apprennent que c'est leur fille, mais là, ils apprennent que, en gros, la copine qui était toujours avec maman, c'était leur fille, que leur fille, elle avait été, en gros, il y avait eu un lavage de cerveau, elle était là pour buter le docteur, et là, qu'elle était vraiment en partie Time Lord, et qu'en plus, elle vient de tout sacrifier pour lui. C'est pareil, il y a de nouveau de quoi digérer, quoi. Et là, on réenchaîne, et en effet, on réenchaîne très vite, sans le digérer, simplement.
Et c'est vrai que tu as quand même un goût particulier de Steven Moffat à faire des ouvertures à froid. Qui est systématique, que ça soit dans l'introduction d'une arche narrative, d'une idée, ou même l'introduction d'un personnage. Il adore intégrer quelqu'un, les personnages le connaissent depuis, depuis des années et pouf, tiens, en fait, alors c'est les, comment dire, la, les deux personnages, les deux lesbiennes qui...
oui, le, les deux personnages, oui, oui, oui. La celle avec la tête verte.
Extraterrestre, hein. Où là, t'en as jamais entendu parler, t'es censé... Et là où il est fort, c'est qu'à la fin de l'épisode, t'as l'impression de les connaître depuis 6 ans. Et tu te demandes, tu te dis... mais oui, on les a vus dans un épisode, je crois, il me semble, hein, dans une... Hein, non, pas du tout, ah bon, bah bravo alors. Pareil, comment dire, The Wedding of River Song, je crois que c'est le, l'ouverture à froid, la plus à froid que j'ai vue de ma vie, quoi, c'est...
Oui, mais même, enfin, le côté ouverture à froid, et puis même, enfin, le côté quand même par moment, moi je suis désolée, même sur River Song, sur la relation Dr. River Song, ce mariage... Je, ok, ils ont une chronologie, un énorme bordel. Il y a toute une période qu'on est censé, qu'ils sont censés avoir vécu, que l'on n'a pas vu, mais qui chronologiquement est avant ça. Mais c'est quand même. Ok, les mecs, d'accord. Donc on a appris, nous, dans la saison, si on, strictement, si on s'en tient à ce que nous on en sait, et ce qu'on en a vu, ouais, moi j'en étais pas encore à me dire, c'est bon, enfin. Je savais que ça allait être sa femme, mais c'est bon, allez, le mariage c'est maintenant, c'est tout de suite. Rory et Amy, c'est pareil, eux ils sont ok, notre fille, je voyage avec le docteur depuis 2 ans, limite à un moment j'étais limite amoureuse de lui, et là ma fille que j'ai jamais vue, qui non, a l'air d'avoir 50 balais, va épouser le petit gars là qui a l'air d'en avoir
50
20. Elle a quand même 45 balais, hein.
Oui, mais bah, pas l'air.
On va te rajouter 5 ans à toi, tu vois.
Ça va, c'est encore décent pour l'instant.
Non, et en plus, désolé, elle n'a pas l'air. Alors, c'est peut-être du maquillage,
oui,
mais elle n'en a pas l'air.
Excuse-moi, j'ai revu récemment des rediffs d'urgence, comme je le disais l'autre jour, et elle fait quand même vachement plus jeune dans l'urgence. Hein. Tu vois quand même qu'elle a pris quelques années.
Oui,
hein.
Bah forcément. Oui,
ouais, mais sauf que moi, je suis en train de regarder, c'est la première saison d'urgence, et c'était juste il y a 15 ans, et j'ai l'impression qu'elle en a pris 5, quoi.
Ouais, voilà.
C'est vrai qu'elle a pas l'air. Oui, c'est vrai qu'elle fait plus jeune que son mec, mais ok, mais bon, globalement, il faut avouer que le mariage. Revenons à notre débat, sinon on va commencer à parler des abdos des acteurs, et ce n'est pas le sujet. Mais bon.
Est-ce que tu penses qu'ils ont fait du sport?
Est-ce qu'ils ont pris du muscle?
Oh, j'abandonne. Donc, bref, tout ça pour dire que, quand même, le mariage, il fait un peu. On débarque quand même dans leur relation un peu vite, d'un regard extérieur.
Moi, je trouve ça génial. Le traitement du mariage, je. Alors, c'est un peu téléphoné,
je suis une très grande romantique, j'adore le côté féerique, là, faut avouer que,
mais justement,
ok les mecs.
Mais d'un autre côté...
Justement, c'est ça qui est génial, tu dis The Wedding of River Song, tu t'attends à avoir un épisode qui tourne pendant une demi-heure autour de ça, où tu te dis, je vais un peu me faire chier quand même.
Et au final, l'orgue et tout, et...
attention, ça va spoiler, le mariage, il dure 20 secondes. C'est quand même
comment oses-tu, en tant que fille, je ne peux que soutenir le fait qu'il y aurait eu un mariage pour 3 plombes dans l'épisode.
Non mais c'est vrai aussi que finalement, enfin, le fait qu'elle va être sa femme, on avait un espèce de doute parce que c'est une énorme... C'est une énorme transgression par rapport à l'histoire du docteur, mais on le savait depuis la première fois qu'on l'a vu, quoi. Donc à un moment donné, on a à la fois pas trop besoin d'être pris par la main, et le fait de savoir qu'il y a eu ces 200 ans d'aventure, même si moi, enfin, si jamais dans ma saison idéale, elle fait 14 épisodes, et on rajoute un épisode sur ces 200 ans, où au moins on a juste une aventure avec le docteur et River tous les deux ensemble, et une aventure indépendante sur une planète à la con... J'aimerais adorer qu'il y ait cet épisode-là, c'est clair.
Moi, ce qui me manque, en fait, c'est que dans leur relation, elle est absolument magnifique. Déjà avec le premier double épisode de Moffat, où on la découvre, ou avec ce docteur qui ne voit pas qui c'est, et elle qui a tout son passif avec lui, et cette incompréhension, ce décalage entre eux, et pourtant, il y a une émotion incroyable, et puis, en plus, elle meurt à la fin. Et après, même inversement, un peu plus loin, quand il vient la déposer, et qu'il y a ce petit baiser volé, et que, ah, c'était ton premier baiser. Toutes ces petites scènes sont superbes. Le fait que, justement, dans cette chronologie, les émotions qui sont générées, etc., c'est superbe. Mais il me manque le moment où lui percute réellement qu'il est fou amoureux d'elle. Parce que pour l'instant, on l'avait pas eu avant le mariage, où il y a ce mariage, justement. Mais merde, avant de se marier, quand même, je suppose qu'il a quand même un moment ou un autre vraiment percuté, et que cette scène d'émotion, on peut avoir dans l'inverse. C'est-à-dire pas seulement elle qui comprend à quel point elle laisse tout par amour pour lui.
Cette scène, elle existe. Hein. Simplement, c'est pas une scène d'émotion, c'est une scène comique.
C'est à la fin de Goodman Goes to War. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait.
C'est le moment où on est en train de tomber amoureux de l'un de l'autre, River.
Oui, mais il manque quelque chose.
Tu trouves que les réactions émotionnelles du docteur tel qu'il est sont cohérentes et rationnelles?
Cohérentes et rationnelles, non, mais il a toujours.
Moi, ça me choque pas, son côté pour moi, y a quand
même
pas...
Non, il n'y a pas que ça quand même.
Ouais, c'est tout.
C'est comme un... pour le coup, lui aussi, c'est un enfant de 7 ans. Quoi.
Complètement.
C'est...
Ah, vous êtes amoureux. Ça,
je suis d'accord, mais même un gamin de 7 ans, tu as un moment de réaction qui tombe plus vers. Je suis une fille, laissez-moi le côté fleur bleue, quoi. Pour moi, non, il faut qu'il y ait un moment de réalisation.
Steven Moffat, si tu nous écoutes. Emily veut un épisode uniquement centré sur le docteur et Riversong où il court sur la plage.
En fait, le prochain épisode, il faut que ce soit la lune de miel de Riversong. Donc, il faut qu'ils aillent sur Hawaii Planet.
Non, avant le mariage. Avant le mariage. Moi, je veux l'histoire avant le mariage.
Comédie romantique ou fantastique.
Voilà.
Bon.
Bon, je voudrais revenir un peu sur un autre épisode dont on n'a pas du tout parlé encore et qui fait partie des choses que j'ai vraiment préférées cette saison. C'était tout simplement le premier, l'épisode de Noël de l'année dernière, Christmas Carol. J'ai trouvé ça pour le coup super chouette de pouvoir profiter de Steven Moffat qui nous a créé une histoire bouclée sur un épisode, que c'est un peu c'est un peu sa prison de showrunner, c'est qu'il est un peu le préposé à la mythologie. Et là, du coup, on le voyait revenir vers une histoire bouclée, une simple petite histoire sur 60 minutes. Et il fait ça aussi vraiment vachement très bien, quoi. Et toute cette saison 5 où j'ai eu des problèmes, parce que pour le coup, ce qui vraiment, j'ai pas eu ce problème-là du tout cette année. J'avais ce problème d'émotion dont on a parlé quand on a fait le bilan de la saison 5, où à part sur le final, c'était une saison qui était vraiment très distante pour moi. Et cette année, je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre entre cette forme de pudeur qu'il a clairement, où effectivement, on n'a pas peut-être ces grandes envolées de romantisme trop fortes, mais en même temps...
Comme tu disais, il a le romantisme d'un gamin de 7 ans, quoi.
Oui, et c'est un peu ça, et puis d'un vieux écossais bourru aussi, quoi. Enfin,
ouais, complètement.
C'est ça et...
Ah, le pauvre, il est en proportion.
Non, mais je pense
même.
Que quelque part, Steven Moffat, si tu veux trouver un milieu dans A Christmas Carol, c'est le personnage du vieux et le personnage du docteur. Là, c'est un
non,
entre
mais,
les deux.
Mais et, tu vois, pour moi, A Christmas Carol, justement, avait cette poésie...
Non, c'est moi, c'est un épisode au niveau... comment dire, c'est au niveau émotionnel qu'il est très satisfaisant.
Oui.
C'est une très belle histoire. Et c'est là que je vois que Steven Moffat est plus que capable de faire dans l'émotionnel.
C'est pour ça.
Et d'ailleurs, c'est une composante qu'il gérait excellemment bien quand il faisait des Loners, ou même le double épisode avec Eccleston. C'est quelque chose qui gère très très bien l'émotionnel. Blink, attachement direct au personnage, les émotions sont rapides mais réelles. Et du coup... il se laisse peut-être... je pense pas qu'il se laisse déborder. Si, il se laisse peut-être déborder par son enthousiasme.
Il y en a tellement à faire dedans. En même temps, il a tellement de choses... Comme tu disais, il y a tellement d'idées dans ces épisodes qu'au bout d'un moment...
Et t'as l'impression qu'il a envie de... qu'il a des idées pour 15 ans, mais qu'il a envie de rester que 4. C'est... Ouais, il faudrait que je fasse ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ok, d'accord, donc il faut que j'écrive tout, en fait. Donc non, je vais pas tout écrire. Par contre, ça, je vais le mettre là-dedans, je vais le mettre là-dedans, je vais le mettre là-dedans.
Mais en même temps, le côté écrit... Enfin, il adore Doctor Who, mais je pense que l'écriture sur 4 ans, elle est logique dans un sens, parce que justement, il adore Doctor Who.
Oui, il va pas s'accrocher à son...
Il veut que ça se renouvelle, il veut... Oui, et puis il veut en profiter aussi, quoi. Il veut profiter du fait de simple, du plaisir de spectateur, quoi, dessus, je pense. Donc clairement, au moins qu'il prévoit sur 4 ans... Au contraire.
J'avais vu, je crois que c'était dans le Confidential du tout premier qu'il a fait, enfin du tout premier en tant que showrunner, Eleventh Hour, où justement il disait à tout le monde, les gars, n'oubliez pas, c'est la première fois qu'on fera c'est notre première impression sur le docteur, il faut que ça soit la meilleure, il faut qu'on ne se loupe pas. Et j'ai un peu l'impression à chaque épisode qu'il écrit, lui, qu'il a ça en tête, c'est qu'il ne faut pas que je le déçoive, il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut que je rende plein la vue, il faut que ça soit mémorable. Et du coup, oui, ça lui laisse plus cette place pour prendre son temps. C'est toujours très rythmé, mais presque trop rythmé. Normalement, dans un scénario, même du 52 minutes, tu dois avoir des moments de pause, de repos. Avec Steven Moffat, t'en as strictement aucun. C'est toujours à 100 à l'heure. Ça a ses côtés positifs, jamais tu t'emmerdes devant l'épisode de Steven Moffat. Et le côté négatif, c'est que t'as pas le temps de te poser. Et je dirais même que t'as pas le temps de réfléchir à son scénar, de te dire « qu'est-ce que ça fout là ?» Ah oui, il en avait parlé. Non, c'est tellement « qu'est-ce que ça fout là ?» On est déjà passé à autre chose. Et à mon avis, c'est ça aussi qui fait, parce qu'on n'en a pas encore parlé, que les réactions de certains fans sont épidermiques au goût de Moffat, c'est qu'ils se posent des questions qui sont parfois pas... qui devrait pas se poser parce que la réponse a été donnée.
Oui et non, c'est-à-dire que franchement, enfin, moi j'ai lu aussi les réactions sur le forum après avoir vu l'épisode.
Violent, hein.
C'est en effet, c'est
tranché. C'est toujours ceux qui sont déçus qui parlent le plus.
Oui, mais forcément. Dans un sens, j'ai adoré cet épisode. Je trouve que franchement, le moment où rien que visuellement, le temps qui est arrêté et tout qui se passe au même moment, c'est magnifique. Cette séquence, elle est absolument magnifique. Enfin, moi j'avais les étincelles dans les yeux. Par contre, oui, je suis frustrée sur plein de trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a la moitié des trucs qu'il a lancés, qu'il a soit coupé trop court, où on n'a pas les réponses, soit pas assez développé, où je m'attendais à avoir des tas de choses que je n'ai pas eues. Parce que forcément, il en avait lancé tellement que il commence. C'est clair que cette garce là, comment elle s'appelle déjà la madame ?
Madame Covariant.
Merci. Madame Covariant, moi je suis désolée, je m'attendais à en avoir 10 fois plus sur elle. 10 fois plus.
Bah, elle peut revenir, hein, mais...
Bien sûr qu'elle peut revenir, mais c'est hyper frustrant, je trouve, que tu l'as vu en début avec cette petite... Donc on te dit au milieu de la saison, c'est elle qui est derrière tout ça, c'est elle qui maîtrise tout, les Silents, qui sait ce qu'ils foutent, comment, d'où ils viennent, etc. Tout ça, tu ne sais rien à la fin de cette saison. Moi, je suis frustrée.
Elle travaille pour les Silents,
oui,
on a quand même vachement avancé sur les
Silents. Non, elle travaille pour, mais d'où elle vient? D'où elle vient, eux d'où ils viennent, quel est le but, quel machin, il y a plein de choses.
Ah oui, mais ça, ils se le gardent sous le pied. Ça.
Bah, leur but, on sait maintenant.
C'est hyper frustrant. Moi, je suis à la fin du season finale, comme, limite comme je l'étais au milieu de la saison, quoi, après Goodman Code
of War. Le seul truc qui m'a gêné dans le season finale, c'est le coup du. Même si la solution m'a convenu, le coup du robot. Donc, encore une fois, on va spoiler énormément. Donc t'as le docteur qui s'est fait aider pour être dans un robot docteur. Moi, le seul truc qui m'a dérangé, c'est quand il se fait tirer dessus, t'as le processus de régénération. Pourquoi? Tu vois, c'est plus des trucs comme ça.
En même temps, le robot, il est capable de transformer des jambes en moto, si tu veux. Donc s'il n'est pas capable de fabriquer 2-3 étincelles jaunes à côté, si tu veux, c'est qu'il y a quand même... c'est que ce serait un robot bizarre.
Ah non, il... Ouais... On n'a pas eu la scène où il les a bien briefés. Bon, les gars, alors, quand je meurs... C'est vrai que sur le coup, je me suis dit...
De toute façon, on savait que ça allait être une astuce du genre. Enfin, je pense que la plupart, on avait pensé que ça allait
tout
être...
Tout le monde était sur les flèches.
Voilà, bah, que oui, ça allait être un flèche, et puis c'était tout, quoi. Enfin...
Ah, mais alors là, si tu me balances que pendant une demi-saison, c'était pas le docteur, mais un flèche, enfin, je te débaffe à tout.
Non, mais que justement, qu'entre-temps, t'avais... Enfin, voilà, quand tu le vois qu'il commence à aller partout courir, tu t'attends à voir une scène à la fin où tu t'aperçois que, tu sais, la petite scène qui fait qu'il se fait buter, tu vois qu'il est en train de fondre et que ça fait de la flèche. Là, tu vois le petit flashback qui te montre au moment où il est parti courir par son flèche et qu'il est revenu.
Après le coup des flèches, ça devient Curtis dans Misfits.
Oui, je suis d'accord.
Bon, alors celui-là, on l'a tué, bah c'est un flèche.
C'est à partir du moment où il y avait l'histoire du bébé dans Goodman Goes to War,
il pouvait plus
s'en resservir une troisième fois.
Enfin, il pouvait, mais là ça devenait lourd.
Ah non.
Ça devenait lourd.
Mais moi, c'est ce que j'expliquais. Moi, je suis assez. C'est vrai, on y perd en pure surprise. Mais je suis vraiment client de cette façon d'écrire là qu'il a la mythologie, qui est de nous poser sa trajectoire clairement, et du coup de pas, enfin, je me répète, mais moi je n'en peux plus de cette écriture de Lesbrook que Lost nous a apporté, qui a contaminé partout, tout le temps et tout le monde, et maintenant, enfin, la moitié des séries de genre sont écrites comme ça, c'est-à-dire que il faut absolument une scène pour que les spectateurs soient sur le cul. Je décide qu'un âne avec des chansons de danse va apparaître dans la scène. Pourquoi? Bah écoute, on verra bien si on trouve une solution dans 3 ans. Si on trouve pas, on fera comme si on avait oublié, quoi.
On dirait que c'était un mystère et que c'était lié à une...
C'était magique.
Voilà.
C'était magique, c'est à cause de la source de la vie dans la fontaine dans la forêt, celle devant laquelle on est passé 10 fois sans la voir avant.
Non, on l'a même pas vue, puis c'est pas grave, de toute façon, on a qu'à dire qu'elle y est. Mais non, je suis d'accord avec toi, et en effet, c'est... Après, chacun a ses... Moi, je suis pas du tout Lost, mais c'est un truc... Moi, quand on lance un truc, j'aime bien qu'on ait la fin, on ait la solution.
Ouais, faut
sinon,
pas que
ça m'énerve. Non, mais j'ai arrêté Lost très vite, t'inquiète pas. Ça a été un des très grands débats avec Simon Assier, j'ai arrêté Lost très vite. Non, mais par contre... Je préfère ce genre de truc, c'est-à-dire que clairement on sait dès le départ que le docteur va pas mourir, on le sait. Donc après c'est, comment il va arriver là et quel est le chemin pour y arriver?
Et pourquoi est-ce qu'il a l'air si abattu? Pourquoi il a l'air d'avoir accepté sa mort? qu'est-ce qui... enfin, comment voilà. on arrivait à cette étape psychologique, c'est ça le...
Ouais, moi je trouvais que ça faisait redite avec la fin de Tom Hunt avec Russell T. Davis. Je trouvais que là, ça, bon, en même temps c'est pas le même auteur, je trouvais que ça bégayait un petit peu ce principe-là. À partir du moment où je sais que je vais mourir, je vais retourner voir des gens, enfin, tu vois.
Ah oui, ça, parce que pour l'intention, c'est exactement l'intention contraire.
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Tom Hunt voulait absolument pas mourir alors que lui, le docteur, a accepté sa mort.
Oui, oui. Bah en réalité, il l'accepte pas non plus quelque part, vu qu'il repousse le truc au maximum, vu qu'il peut voyager dans le temps. Bah, c'est un truc que je me suis posé comme question, c'est est-ce que Stephen Moffat, à un moment, il va pas dire bah en fait, il va continuer à voyager, il ira jamais au lac.
Mais pour le coup, dans Closing Time, ils font le contraire de ça, ce qui découle pas vraiment de la. Enfin, en fait, le truc, enfin si ça, enfin, je vais y arriver, hein.
Restez avec nous.
Le truc, c'est que, en fait, il peut pas faire ça parce que le moment où le docteur est sur la plage, et son âge est fixé, en fait.
D'accord.
Il sait que c'est le docteur de 200 ans plus vieux. Donc il a 200 ans devant lui, mais pas un jour de plus. Alors, l'histoire ne nous dit pas comment il a su quel âge il devait avoir à ce moment-là. Et dans Closing Time, il dit à Craig qu'on est la veille de sa mort, il sait qu'il a vécu les 200 ans et que c'est fini, quoi.
Bon, d'après vous, Rory et Amy, on va les revoir?
Oui, mais ils ont signé de toute façon.
Bah, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, au Comic-Con de San Diego, Karen Gillan, elle a dit qu'elle serait dans la saison 7. Alors après, elle a pu le dire et voilà ou pas. Moi, de toute façon, c'est la dernière fois qu'on voit Amy, Rory et River Song, ils sont sur cette scène dans leur jardin d'Amy et Rory. Je veux dire, il n'y a absolument aucun moyen pour que ce soit la dernière apparition des personnages. Donc, c'était la dernière fois qu'on les voyait, de toute façon, River Song, voilà.
Surtout si on part du principe où le docteur est maintenant sous couverture et que, en gros, les trois seules personnes qui connaissent le secret normalement, c'est
cette idée, je trouve cette idée très bonne parce que moi, en fait, j'avais une théorie quand j'ai vu le docteur se faire tuer. Pour moi, ma théorie, c'était que le docteur, se rendant compte à quel point il est devenu une cible et un danger, à quel point il était devenu une superstar du cosmos, s'est dit on va faire croire que je suis mort et on va se servir de ça pour que maintenant je puisse être plus ou moins laissé tranquille, parce qu'en fait Stephen Moffat il a monté les enjeux, hein. Le docteur maintenant il a la moitié de la galaxie, si ce n'est la totalité de la galaxie aux fesses,
tous les méchants,
clairement il ne peut plus se planquer, il ne peut plus faire des petites sorties comme il avait l'habitude de faire, quoi. Donc je trouvais ça, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais au final il rebondit plus ou moins dessus, quoi. Enfin, c'est plus ou moins je suis mort maintenant. Mais je pensais que c'était plus conscient de la part du docteur que là, en fait. Mais bon, finalement j'étais pas si loin du truc. J'ai envie de poster sur le forum.
Pour moi, en fait, à ce niveau-là, oui, il faut qu'il. De toute façon, il fallait qu'il passe sous les radars pendant un temps au moins pour trouver, justement, pour résoudre cette histoire avec les Silence. Puisque là on le voyait qu'il se faisait tuer. Donc c'est que dans un sens, il fallait que l'image de lui se faisait tuer, il faut que ça ait un sens. Après, à quel point, c'est ça le truc, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'au bout de trois épisodes, en gros, ça va être « Ah, je ne suis pas mort !» Ou est-ce que ça va durer pendant deux saisons? Parce que c'est pas impossible non plus.
Bah, après, c'est vrai qu'aussi, il y avait, par rapport au silence à cette histoire, c'est leur deuxième plan pour tenter de l'éliminer. Donc à un moment donné, on ne va pas voir les silences qui essayent de tuer le docteur tous les ans jusqu'à 2013. Enfin, il faut un peu trouver, ou en tout cas, il faut trouver des moyens de le faire différemment.
Ouais, mais il va y avoir quand même des tas de choses à dire sur ces silences, parce que moi, je suis frustré pour l'instant.
Mais je vois pas ce qui. Pour le coup, maintenant, on a leur but. On sait pourquoi ils en veulent au docteur.
Ouais, mais tu vois, le TARDIS construit là, qui est en début de saison.
On sait qu'il voyage dans le temps, donc il faut qu'il vienne qu'il ait un vaisseau pour voyager dans le temps.
Comment ils l'ont récupéré?
Il s'est expliqué dans l'épisode.
Ils piquent les.
Ils utilisent.
Ils parasitent les technologies des
autres. Donc ils ont pu paralyser à un moment donné la technologie des Time Lords il y a longtemps.
Ça me dérange pas du tout.
Non, enfin,
il
y a une petite part d'imagination, mais on a carrément assez pour moi pour voilà. Donc du coup, ils ont parajouté un jour la technologie des TARDIS, donc ils en ont, ils savent comment ça marche. Donc ils ont pu, grâce à ça, s'introduire dans celui du docteur et prendre son contrôle pour tenter de le tuer et de le détruire. Les pièces du puzzle s'emboîtent assez facilement. On n'a pas le. Alors oui, on n'a pas cette scène où Ami est assis, le docteur est assis en face d'Ami et lui dit « Ah mais donc, c'est bien sûr, à ce moment-là, ils ont fait ceci et cela en pensant que, mais grâce à... »
Non mais je sais pas, globalement, ça me manque pas du tout. Moi, c'est pas une intrigue qui est bouclée.
Bah, elle n'est pas bouclée, pas elle doit... Oui, c'est encore l'ennemi, ça va être l'ennemi principal de tout le run de ce film. Pas, ça nous amène sur la régénération de Matt Smith. Donc.
La scène avec Covarion sur la chaise, si elle dure plus d'une minute trente, je me flingue, quoi. Enfin, si après, elle explique tout le plan avec un verbe démoniaque à la fin...
Non, le but n'est pas qu'elle explique le plan, mais malgré tout, il y a eu toute une phase où ils ont eu River, où c'est vrai aussi, il y a eu des posts sur forum, pourquoi ces deux tentatives seulement enfin pourquoi ces deux tentatives à ce moment-là, pourquoi aller récupérer River à cette période de sa vie pour la mettre dans le costume d'astronaute, etc. Enfin, il y a plein de choses de ce type-là où il peut y avoir des têtes. Enfin, c'est vrai que moi ça me frustre aussi. Je comprends les réactions sur le forum. Je dis pas que je partage le côté ah, c'est le plus mauvais épisode de la saison, machin, etc. Mais globalement, il y a des choses aussi qui, moi, me frustrent.
Non, mais The Wedding of River Song, c'est un épisode qui est frustrant. Pour moi, c'est le seul. Enfin, j'avais pas ressenti ça jusque-là. Même quand ces épisodes étaient très rythmés, etc., même Let's Kill Claire où il se passe plein de trucs. Voilà, ou A Good Man Goes to War, il se passe plein de trucs aussi. Mais je trouve qu'ils arrivent à trouver le moment de se poser. Et il y a cette fin qui est une longue scène de 8 minutes. Voilà. Donc il y a ces équilibres-là. C'est vrai que The Wedding of River Song, pour le coup, j'ai ressenti aussi la frustration. La première fois que je l'ai vu,
C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est frustrant, c'est comme c'est le season finale, encore les autres, tu admets le fait que, par exemple, sur The Good Man Goes to War, tu admets le fait que, ok, c'est son cliff de milieu de saison, on va savoir un peu plus dans la deuxième partie. Là, tu dis, ouais, d'accord, on va le savoir après un peu plus.
Il y avait plus d'apaisement à la fin de Good Man Goes to War qu'à la fin de Wedding of River Song.
Pour un season finale,
Wedding of River Song, il a une structure qui est totalement aberrante, il n'a qu'un acte 2. Il n'a pas de prologue, il n'a pas d'épilogue, il n'a qu'un acte 2, c'est-à-dire là où est censé se dérouler toute l'action.
Et puis c'est vrai que comme The Wedding of River Song, c'est le final, t'arrives là avec tes attentes, quoi. Ouais. Tu veux ça, ça et ça et ça, et pouf, on commence et il y a César Churchill au milieu des maisons, des voitures ballons et des ptérodactyles.
En soi, c'est un épisode.
Voilà, ça, c'est ce truc était magnifique.
C'est génial, mais c'est juste que ça se prend tellement à contre-pied que moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la regarder la deuxième fois que j'ai vu l'épisode que la première où j'étais mis. Qu'est-ce que c'est bien faire cette histoire.
Du coup, ça m'a fait un petit peu la même surprise que m'aurait fait un âne avec des chaussons de danse. Pourquoi on commence sur un âne avec des chaussons de danse?
De toute façon, c'est pour ça aussi que les réactions sont si violentes. Hein. Je pense que clairement, c'est le season finale qui a aussi bouclé.
Il n'y a pas que ça. Après, c'est vrai que c'est un truc que je comprends complètement. C'est que Steven Moffat, il s'adresse pas à la même partie du cerveau que Russell T. Davis. Et les fans les plus hardcore de l'époque Russell T. Davis, c'est normal. Et c'est pour ça qu'en fait, ces réactions super violentes, je les trouve super saine et super positif pour la série. Ça veut dire qu'on a un mec à la barre qui a changé suffisamment de trucs. Et du coup, les plus hardcore d'avant n'y retrouvent plus leur compte parce qu'ils étaient hardcore sur avant et du coup, c'est autre chose.
Et
c'est vraiment positif. C'est vraiment. Parce que j'avoue que je sais pas exactement qui va prendre le relais de Steven Moffat, mais je veux dire, ça va venir un jour où on va avoir un scénariste qui sera pas. Enfin, je veux dire, Russell T. Davis et Steven Moffat, c'est tous les deux des scénaristes incroyables, quoi. C'est des mecs qui ont un univers propre. Tu regardes un épisode 2, avec un peu d'entraînement, tu dois pouvoir être au bout de 10 minutes de dire ça, je suis sûr que c'est lui qui l'a écrit.
Le second Gomin, tu vois très bien, c'est du Russell T. Davis, hein, y a pas de problème.
Ils ont touché à des gens très différents en plus. Ils sont arrivés là-dessus, ils n'avaient pas fait que de la SF.
Exactement. Et c'est incroyable ce fait que la série est exactement la même, et en même temps, elle a rien à voir. J'adore ça. Et après, je suis super schizo, c'est-à-dire que j'aime autant l'émotion pathos, hyper pathos, et émo, et tout le monde chiale de Russell T. Davis, que les constructions et la mythologie philienne de Steven Moffat. Moi, les deux sont deux kiffs personnels que j'ai, et je trouve ça génial de, dans la même série, successivement, pouvoir avoir ces deux kiffs à moi, les uns après les autres. C'est incroyable.
Et c'est même pas inconscient de la part de Steven Moffat, dans le sens où son écriture est telle que c'est quelque chose qu'il veut expurger, parce que de la manière dont il traite les Cybermen, les Daleks, tous les autres trucs que Russell T. Davis
a utilisé.
Je vais pas dire surexploité, mais c'est vrai que des fois les Daleks, les histoires de Daleks c'était un peu chiant, les histoires de Cybermen, j'ai pas souvenir vraiment d'une, à part le final de la saison 2, vraiment captivant.
Moi j'adore le spécial de Noël dans Londres avec Maurice.
Ouais, il est pas mal.
The Next Doctor.
Exactement.
The Next Doctor. Ouais, il est pas mal celui-là, mais c'est vrai
que
globalement,
une sorte de Cybermen préféré.
Il utilise les Sontarians, les trucs comme ça, il les a vraiment utilisés. Quand Steven Moffat les utilise, c'est dans une demi-scène, généralement, voilà, t'as soit un Dalek à l'agonie, soit un Sontarian, soit un Dalek qui sert le thé, soit...
Ou le Sontaran, infirmière qui donne le sein.
Alors c'est vrai que pour un fan de base, t'as peut-être un peu l'impression que Steven Moffat il est en train de pisser sur tout ce qui est établi depuis le départ. Mais en fait non, c'est sa manière de dire non, moi je fais un truc à part, je fais mon truc. Ce qui est pas... Enfin, je pense qu'il n'interdit pas que l'an prochain, Moffat nous pond un énorme épisode avec
les Daleks. Ils vont revenir.
Qu'on apprenne que les Silent et les Daleks soient...
Il a fait les nouveaux Daleks pour Bioman, pour Rangers, donc il va bien falloir les ressortir maintenant.
Ah, c'est petit, c'est bas, c'est mesquin.
Ah, c'est quand même un peu la réalité quand tu les vois.
Et tu te dis romantique.
Avoue que à la Comic Con, si t'avais dû acheter un Dalek, t'aurais pris un de l'ancienne génération en statuette, pas un des nouveaux rouge fluo ou jaune rose.
De toute façon, quand j'ai voulu me les acheter, il n'y en avait plus. On a trop bossé à la Comic Con, j'ai pas eu le temps d'aller dans les boutiques.
Moi, il y a un autre truc qui m'a bien plu cette saison et qui est un peu. En fait, qui répond à une des frustrations que j'avais eues dans la saison 5. Une des frustrations que j'avais eues dans la saison 5, c'était avec le personnage d'Amy. Oui, non, j'avais pas vraiment eu de frustration avec le personnage de Rory, mais il était très en second plan, quoi.
Il mourait souvent quand même.
Bah, il meurt toujours.
Oui, toujours. Mais maintenant, il meurt dans tous les épisodes. Et, voilà. Non, mais enfin, oui, il était à peine dans la moitié des épisodes, même pas, non, il était dans un tiers des épisodes l'année dernière. Mais j'avais vraiment de problème avec Amy, puisque je savais pas qui c'était comme personnage, etc. Et j'avais aussi ce problème que m'avait posé le final de la saison 5, qui était que du coup on avait une nouvelle amie qui avait quand même vécu une nouvelle enfance avec des parents, mais qui était quand même vachement ressemblante à l'ancienne amie qui avait vécu comme orpheline, et que je trouvais ça un peu space, et que pour moi ça appelait une vraie réécriture d'amie, quoi. Et sans vraiment lui dire, etc., finalement, moi, quand j'ai fait mon bilan à la fin de l'année, je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, j'ai eu ça. J'ai vraiment l'impression que l'ami que j'ai eu cette année était très très différente que celle de l'année dernière. Autant l'année dernière, moi, j'arrivais pas. Enfin, Ami, c'était la fille sympa qui avait des bonnes répliques, mais j'avais pas de prise autre que ça sur elle, mais c'était normal parce que toute l'idée c'était que son histoire s'est faite aspirer par les failles, et donc voilà. Enfin, c'était un espèce de concept, mais c'était un drôle de concept pour introduire un personnage principal. Enfin, c'était un peu bancal comme idée. Enfin, c'était une idée dangereuse en tout cas, et je suis pas sûr que le résultat soit parfait. Et vraiment, au fil des épisodes, cette saison m'a vraiment fait adhérer au personnage d'Amy, comme vraiment l'année dernière j'avais jamais adhéré, quoi. À part vraiment très épisodiquement, comme avec Vincent Van Gogh ou des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui est né. Je trouve que Karen Gillan, dans les moments qu'on dépend d'elle, je trouve qu'elle a vraiment assuré, quoi.
Oui, tout à fait.
Je trouve que dans le double d'ouverture, quand elle doit jouer la mort du docteur, elle est super super bonne. Je trouve que quand elle doit jouer l'ami plus 36 dans The Girl Who Waited, elle me fait vraiment partie. C'est une prestation épatante. Enfin, je veux dire,
si le maquillage est pas top, elle arrive à faire passer le feu.
C'est justement ce que j'allais dire, c'est que ça repose pas sur le maquillage, sa prestation. Le maquillage, j'ai vraiment raté. Dans la review de l'épisode, j'ai posté une capture d'écran et c'est atroce. On voit la marque du masque sur le nez.
Faut admettre que globalement, à chaque fois, moi, que j'ai vu une série britannique ces derniers temps où ils essayaient de faire vieillir un personnage, j'ai eu. Enfin, t'as peur quand tu vois le maquillage.
Il n'y a pas que les séries britanniques.
Non, toutes, mais honnêtement. c'est-à-dire que par exemple David Tennant quand il fait le vieux docteur dans le final de la saison 3, bon, tu vois que c'est un peu du plastique.
Mais
je trouvais que c'était, enfin là c'est pas,
c'est ça, va du comédien aussi.
Oui, enfin, là ça va au-delà du fait que tu vois que c'est du plastique, c'est que tu vois la marque du plastique, quoi. C'est pas une question de texture, c'est une question que tu vois la marque de l'application.
Pas bien
que...
Je croyais que c'était la marque du truc, du masque, genre Made in China, et puis tu vois la marque.
Mais limite, t'as l'étiquette, mais on n'en est pas super. Enfin, mais globalement, enfin, de l'équipe maquillage, je sais pas si elle a changé ou pas, Mais c'est pareil, le mec, l'extraterrestre de The God Complex, tu vois aussi la marque de son masque dans la moitié des plans dès que la lumière est pas bonne. Donc je sais pas s'ils ont changé les mecs, mais ils sont pas bons sur l'application de fond de teint post-collage du masque parce que y a plein de. Enfin, les masques pour le coup cette année, à part celui des Siluriens de l'année dernière qui est réussi, mais ils sont pas très beaux cette année. Ah, peut-être que c'est l'HD aussi, je sais pas.
C'est pas faux, hein.
Ça joue.
Ils ont été même obligés de changer la box, hein, la police box, hein, quelque part. Ouais. Les détails sont plus.
Donc voilà, en tout cas, ouais, moi j'ai vraiment accroché avec Ami plus qu'avant. Mon Rory, c'est vrai que même si on le voyait pas beaucoup, je continue à l'aimer énormément, et je trouve que pour le coup Darville, il est vraiment incroyable
et
comme acteur.
Cet épisode avec Amy dans The Girl Who Waited, elle est excellente, mais lui aussi vraiment vraiment très bon aussi.
Incroyable. Et ce mec, il a une profondeur d'émotion qui est démente, il a un timing comique qui est ahurissant.
Tu vois ses émotions sur son visage tout de suite. T'as des acteurs comme ça. Matthew McFadden, c'est pareil. C'est des acteurs, tu vois leurs émotions sur leur visage, ça transparaît tout de suite. Ouais. Et du coup, t'es tout de suite en empathie avec eux, quoi qu'ils vivent.
Il n'y a pas de souci.
Et du coup, Darby, pour ça, il est fort parce que quand il est.
Quand
il est dans une scène dramatique, il est vraiment dramatique, t'as de la peine pour lui. Quand il est dans une scène comique, il a un rythme de. Il a un rythme de comédie qui est vraiment efficace et qui est mort de rire. Et quand il fait le mec impressionnant au début de
Goodman de Souva,
t'es impressionné parce que tu te dis ouais, attends, c'est Rory. Ah ouais, quand même.
C'est toute sa gestuelle de toute façon. C'est aussi
sa gestuelle,
corporellement déjà, tu
c'est une trouvaille incroyable. Il met une autre pâtée à tous les mecs de compagnons depuis des décennies, quoi.
Alors du coup, ma seule frustration par rapport à eux deux cette année, c'était que je trouve que Rory est encore un peu trop en retrait. Ouais. Moi je veux qu'il ait son épisode bientôt, quoi. Ouais, c'est clair. Donc rien que pour, enfin, en tout cas, à la fin de la saison 5, si on m'avait dit qu'à la fin de la saison 6, Ami et Rory pourraient potentiellement. Je vais être honnête, j'en sais rien, hein, je sais pas. Moi je suis persuadé que c'est encore les compagnons principaux l'année prochaine.
Oui.
Et que donc du coup c'est encore Matt Smith, Garen Gillan et Arthur Darville en cast principal pour la saison prochaine. Si on m'avait dit ça l'année dernière, j'aurais dit ah ouais, ok, d'accord, je suis pas sûr, quoi. Et là je suis banco pour repartir avec les trois. Si ça donne l'occasion d'avoir un putain de d'un ou deux bons Darville épisodes, un bon Rory sans
docteur
et Rory, ou Rory qui vit une. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais un truc où
ou un épisode où le docteur se retrouve coincé quelque chose quelque part et que c'est Rory
Et qu'il y ait des trucs qui. Parce que pour l'instant, il réagit un peu par procuration au truc qui arrive à lui, mais qui est plus quelque chose qui lui arrive à lui. Enfin, voilà, si ça donne cette occasion-là, moi j'en serais vraiment content. Et j'aime aussi plutôt bien, finalement, en y réfléchissant, le contre-pied, là aussi, finalement, à ce qui s'est passé précédent, mais le zapping à la fin de Russell T. Davis, qui était que chaque année, on change le cast. Alors, après Martha, on s'en est terminé assez bien. Mais clairement, on aurait bien fait 2-3 ans de Donna, quoi, ou des trucs comme ça. Voilà, donc je suis assez content, et je trouve que l'équipe a les épaules pour le porter. Donc je sais pas s'ils seront en casse principaux, ou s'ils seront que pour la moitié ou quoi. Mais en tout cas, je suis content de les retrouver.
Non, puis ce qui est bien, c'est que moi, Amy, j'avais accroché dès le premier épisode, mais plus lâché après, dans le sens où t'as vraiment l'impression que le personnage est hyper travaillé dans le premier épisode et laissé à l'abandon dans les suivants. Elle sert vraiment, c'est une accompagnatrice.
Elle évolue moins, ouais.
Elle évolue pas parce qu'elle reste là, elle a les yeux émerveillés devant le docteur, et c'est à peu près tout ce qu'elle fait, et c'est un peu dommage. Mais je trouvais que c'était juste un excellent personnage qui était laissé de côté. Or, il n'était pas vraiment laissé de côté, il était plus ou moins laissé entre parenthèses pour être utilisé et expliqué plus tard. Et du coup, ouais, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les fans sont pas très fans d'Amy. Je pense pas que ça soit que les vues courtes, parce que globalement, ça gêne personne. Mais c'est vraiment le côté un petit peu vide du personnage pendant une période, alors qu'au départ, l'introduction, elle est forte, elle est efficace. De l'avoir enfant, de l'avoir plus tard, puis il y a une ressemblance incroyable entre l'enfant et l'adulte, c'est juste.
C'est sa cousine, je crois.
Ouais, sa cousine.
Tu m'aurais dit qu'il n'y avait pas de lien de parenté entre les deux, je t'aurais dit bravo le casting director. mais et pareil, Rory, il est passé de Gucci à vraiment quelqu'un oui. de...
Rory prend vraiment une autre dimension cette saison.
Ah,
et enfin, Amy aussi a quelque chose, hein, bien sûr, mais l'an dernier, Rory, c'était le gag, quoi, quand même.
Ah, oui.
C'était vraiment le gag.
Ça allait vraiment Rory, attendre les deux meurs, derniers épisodes.
Voilà, c'est là où t'avais un sens sur Rory et une utilité à Rory, réellement. Parce que pendant un temps, tu quand même. Limite, elle se marie pas avec. Bah, voilà, de toute façon, vu ce que t'as vu Rory dans la saison et vu ce qu'il a fait, tu le comprends, quoi.
Puis la première fois, ils le font mourir, t'as vraiment l'impression que tu vas plus jamais le revoir. Donc l'attachement.
Voilà. Non, mais et cette saison, c'est, je pense que c'est Rory qui gagne le plus en épaisseur. Amy, on gagne. Mais Rory, c'est pas vraiment un
échec. Pour moi, ça se distribue sur les deux. Je pense vraiment, là, y a... Alors, je sais pas s'ils ont mis le doigt sur les personnages ou si c'est juste narrativement, ils ont trouvé leur place. Mais pour moi, ils ont vraiment pris corps cette année, enfin, même depuis le final de l'an dernier.
Bah, c'est là que c'est vrai aussi que pour le coup, ils profitent bien de ces l'honneur de fin de saison. Où ben, The Girl Who Waited et The God Complex qui leur donnent aussi un peu leur place, qui leur donnent des caractéristiques aussi. J'aime bien le fait que Rory ait pas sa chambre dans l'hôtel du God Complex. Parce que c'est un mec terre à terre et qu'il a foi en rien. C'est vraiment le genre de truc qui manquait à Amy l'année dernière. Des petites touches de caractérisation qui te permettent au fil des épisodes de à chaque fois t'avais un coup de pinceau en plus et du coup à la fin t'avais vraiment une toile impressionniste et là t'avais effectivement 4-5 beaucoup de pinceaux dans Eleven Sour. Sauf que tu devais passer après les 10 épisodes suivants avec juste ça. Et ça manquait un peu d'épaisseur, quoi. Et voilà, ça a été apporté cette année. On a un peu bien fait le bilan de cette saison. Alors on pourrait continuer d'en reparler. C'est vrai qu'on a presque pas parlé de l'épisode de Neil Gaiman, mais du coup on s'est juste contenté de dire que c'était formidable et puis ça suffit finalement.
Continue à le dire, c'est génial.
Prochain rendez-vous avec le docteur, ce sera à Noël prochain. Et il va falloir bien en profiter parce qu'a priori on risque de pas le revoir après jusqu'au mois de septembre. C'est à peu près ça, ouais. C'est un scandale. Nous on se donne rendez-vous à notre prochain numéro des controverses et en fait ce sera, on va faire comme l'année dernière, un retour de devoir de vacances. Avant l'été, il y a longtemps c'est vrai, mais bon. En même temps je dis ça mais on est début octobre, c'est encore l'été alors on enregistre. Hein. L'été est fini depuis deux jours.
Ouais voilà, depuis hier. Hier il faisait beau.
Donc on s'est filé chacun nos devoirs de vacances, donc ça va être le programme du prochain podcast. Alors Émilie, qu'est-ce que tu as confié à Dominique comme devoir de vacances ?
Warriors, pour mettre un petit peu de Matthew McFadden dans cette histoire. c'est hyper déprimant, mais c'est magnifique, mais c'est hyper déprimant. Enfin c'est rude quoi, comme truc, et vous verrez, on en parlera plus largement. Et à toi, donc Sullivan, tu as eu le bonheur de... Je suis restée dans les années 90, voilà, je suis restée dans le vintage. Tu as regardé donc Pride and Prejudice avec le cher Colin Firth et cette fameuse scène de la chemise mouillée dans le lac.
Tu lui as pas filé le film avec Matthew McFadden, non ?
Franchement, je bave encore dessus et je crois que je l'ai revu à peu près 4 fois plus que cette version-là. Mais bon, il faut que j'arrête mon obsession sur Matthew McFadden.
Moi, j'ai vu cette fameuse adaptation de Jane Austen dont toutes les filles de la Terre sont amoureuses, donc je vais pouvoir percer ce secret.
Ah, je préfère Matthew McFadden quand même. Mais bon, allons-y, continue.
Dominique.
Oui ?
Qu'est-ce que tu avais confié à tes petits camarades ?
Alors à Emily, je lui ai confié, comme je confie à peu près à tout mon entourage depuis un an et demi, la fabuleuse série Loofer de Neil Cross, avec Idris Elba. Et pour Sullivan, un téléfilm que nous avions vu, enfin que j'avais vu tout seul comme un grand, au RITV d'il y a une éternité, en 2008, qui s'appelle Stuart, A Life Backwards, qui est à la fois un téléfilm intéressant, et en plus qui a dans son casting Benedict Cumberbatch, donc Sherlock, et Tom Hardy, qui est à peu près maintenant dans tous les gros projets hollywoodiens qui existent possibles.
Et moi, j'avais donc confié à Émilie de regarder une œuvre de mon petit chouchou personnel, c'est-à-dire The Second Coming par Russell T. Davis.
Ah, tu aimes bien ?
Ouais, il paraît.
Merci du cadeau, Sullivan.
Franchement, il y a des gens, ils savent pas apprécier ce qui est bien. Et on spoilers. Et à Dominique, j'ai fait le quota français, parce qu'on était carrément. C'était très british, c'était devoir de vacances. Et je lui ai confié, ça vous dira sûrement rien, la majorité d'entre vous. Mais on en a énormément parlé il y a 10 ans quand c'est passé, enfin dans les petits milieux scénaristiques. Enfin, ça a été un espèce de gros buzz et ça a fait un bide total en termes d'audience. Mais moi, c'est un truc, c'est plein de défauts, mais c'est un truc que j'adore absolument.
Et le titre de la série va arriver à la fin de cette phrase.
Et ça s'appelle Rastignac ou les ambitieux.
Ouais, bon courage pour trouver des trucs sur internet, hein, c'est chaud.
Pour me télécharger, ça va pas, c'est pas gagné. Voilà, et ben écoute, on va vous parler tout ça beaucoup plus en détail la prochaine fois, ce sera intéressant, je pense. En attendant, bonjour chez vous.